Bonjour chers auditeurs, bienvenue à Culture et Politique sur Radio Courtoisie. Richard Haddad au micro avec Pierre-Henri, comme tous les lundis à 17h.
Bonjour Richard et bonjour à tous les auditeurs, ravi de vous retrouver.
Aujourd'hui, deux sujets au programme, l'ensauvagement de la société. Ce n'est pas la première fois que nous en parlons, mais on peut développer encore plus que d'habitude parce que ça devient gravissime. Et puis, la régression de nos libertés, on en a aussi parlé, mais là, en fait, on a l'impression que on a atteint le sommet, et puis on nous sort encore des interdictions. Ce gouvernement, nos dirigeants ne savent qu'interdire. Il n'y a pas qu'en France, d'ailleurs, c'est l'Europe malade, vieillissante, qui ne sait qu'interdire.
Exactement, au lieu de régler les problèmes,
ils interdisent. On va en parler, mais l'Union européenne devient de plus en plus une Union soviétique. Mais on va en parler.
L'État français n'a même pas besoin de l'Union européenne parfois pour être soviétique.
Sur tous les plans. Alors d'abord, cet ensauvagement de la société, Pierre-Henri, il y a encore eu une fois de plus parce que ça n'arrête pas. Et le drame, c'est qu'on s'y habitue. J'ai peur, moi, qu'on s'y habitue. Donc un jeune tué à Narbonne.
Le pauvre Louis à Narbonne, en effet, qui a été lynché par une bande de trois mineurs et deux jeunes majeurs qui devaient avoir à peine 18 ans, qui le connaissaient visiblement d'un centre d'aide sociale à l'enfance, donc d'un centre de placement de mineurs, et qui lui ont tendu en fait un piège dans un bâtiment désaffecté, un chantier, je crois, et qui l'ont...
Donc c'est prémédité.
C'était tout à fait prémédité.
C'est un assassinat.
Qui l'ont tué à coups de poing et à coups de pied, à 5 contre 1, et qui, sans trop rentrer dans les détails horribles, se sont pris en photo devant le corps inerte, le pauvre Louis qui n'était pas encore mort mais qui était agonisant. Ils sont repartis, ont pris des vidéos d'eux dans le train en train de rouler des joints.
Ils ne craignent rien.
Alors qu'ils ne craignent rien, et qui, alors ça c'est intéressant aussi dans les expertises des psychiatres un petit peu honnêtes, qu'ils n'ont aucune conscience du long terme en fait, et des conséquences de leur acte. Or, c'est-à-dire que pour eux, tuer quelqu'un, enfin lui shooter dans la tête, ça ne veut pas forcément dire le tuer. S'il est mort, c'est pas grave, et peut-être qu'au bout de quelques jours ou de quelques semaines, on va se rendre compte qu'on risque d'aller passer des années derrière les barreaux. Mais qu'est-ce que ça représente une année ?
Non, mais c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Le problème pour eux, c'est qu'aller derrière les barreaux, c'est une médaille. Ce n'est pas si grave que ça. Et puis souvent, ils sont mineurs. Alors je ne sais pas dans ce cas-là s'ils étaient mineurs tous ou pas.
Trois mineurs, deux majeurs.
Voilà. Et donc, ils ont bien compris, parce que bon, ils ne sont pas très intelligents, mais il n'y a pas besoin d'être un grand génie pour comprendre, depuis le temps qu'on nous le répète tous les jours, que les mineurs dans notre pays risquent très peu de choses. Donc, même pour des meurtres. Ils risquent une petite peine.
Entre 15 et 18 ans, un peu, mais moins que les majeurs.
Exactement. Mais ça reste quand même... Et donc, ça leur fait pas peur. Ils savent que, en plus, bon, ils risquent quand même quelque chose. Mais eux, on leur a tellement dit que les mineurs ne risquent rien qu'ils ont intégré dans leur cerveau qu'ils ne risquent rien du tout, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Mais c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses, d'une part. Et d'autre part, aller en prison, ceux qui sont dans les prisons sont leurs héros. Donc, pour eux, faire de la prison pour avoir tué quelqu'un, ça fait d'eux des hommes virils. Comprenez ? Donc, ça, c'est d'une part. Et donc, rien ne leur fait peur. Donc, l'avenir, ils s'en fichent un peu parce qu'ils se disent, en prison, il y en a qui vivent très bien. Vous savez que dans nos prisons, il y a des grands criminels qui ont le droit de rencontrer leur femme dans une maison privée, de coucher avec.
Oui.
Ils ont des téléphones portables avec lesquels ils dirigent leurs affaires à l'extérieur.
Des tueurs en série ont bien réussi à devenir pères en prison.
Oui, non, mais vous savez qu'ils ont on les laisse plusieurs jours dans une maisonnette à l'intérieur de la prison pour. Voilà. Et donc, tout ça se sait. Et donc, ces gens-là, ces petits jeunes, pour eux, la prison, vous savez, chez eux, c'est pas pire que la prison. Hein. Je veux dire que.
Dans certains cas, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est souvent à l'origine de leur pathologie mentale, parce que là, on est devant des actes qui sont d'une telle sauvagerie que soit on est obligé de dire qu'il y a des différences entre des gens qui sont vraiment mentalement à l'âge de pierre.
Culturel aussi.
Il y a du culturel, c'est-à-dire que ces enfants et adolescents-là ont grandi très souvent dans des familles où le seul rapport normal qu'ils ont vu et subi depuis leur enfance, ce sont des coups.
Alors, je ne connais pas leur nom, ces jeunes.
Il y a de tout.
Mais je vous parie que, alors, ça arrive que ça soit des jeunes non issus de l'immigration, etc. Ça arrive. Mais je vous parie, parce que c'est à 4, 9 fois sur 10, c'est ça, et c'est culturel, parce que c'est une question d'éducation, de culture, de mode de vie. Ils ont une façon de faire. Enfin, dire, la vie n'a pas la même valeur dans leur culture à eux que dans la nôtre. C'est comme ça. C'est pas une attaque que je fais là, c'est un fait, je constate. Voilà, on le sait, etc. Donc, tuer quelqu'un pour eux dans cette culture-là, c'est moins de. Même s'ils sont punis, ce sont des gens qui sont nés en France souvent, mais vous savez, c'est culturel, ils vivent entre eux.
Là, en fait, les cinq, il y aurait un Français de souche. Le reste est un mélange de métis, soit maghrébo-espagnol, italo-portugo-espagnol, il y a un antillais ou métis noir, et en fait tout ça, ça appartient quand même aussi au côté social, c'est du limpène prolétariat.
Oui, mais Pierre-Henri, moi ce que je vais vous dire, c'est que comme je ne suis pas raciste, ce que je vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je pense que c'est pas une. J'ai dit culturel, j'ai pas dit racial.
Mais je sais ce que vous allez me dire. Oui. C'est qu'il y a une espèce d'assimilation à rebours.
Exactement. Alors, vous devinez dans mes pensées. Vous lisez dans mes pensées.
Exactement.
En réalité, peu importe, même s'ils peuvent s'appeler Philippe, le type, vous prenez un Philippe français de souche, comme vous dites, vous le mettez dans une école, dans une barre HLM où il y a 90% de maghrébins, etc., le Philippe, il va devenir comme les maghrébins.
Même, il se convertira tôt ou tard.
Exactement. Voilà. Et vous prenez un maghrébin, un enfant maghrébin, vous le faites adopter par une famille française dans un quartier de classe moyenne, vous le mettez dans une école catholique, et ben le maghrébin va devenir un garçon poli, gentil, éduqué et qui va ne tuer personne, c'est tout. Donc c'est pas racial, c'est culturel, et encore une fois, peu importe d'où ils viennent, ils baignent dans un environnement culturel d'Afrique du Nord et d'Afrique noire.
Des individus qui à 16, 17 ou 18 ans trouvent rigolo de tuer quelqu'un à coups de pied.
Oui.
Ce film, en train de le faire ou juste après, en se marrant devant quasiment un cadavre, en tout cas un corps inerte d'un gamin qui est en train de mourir littéralement sur place, trouve ça très drôle, repartent dans le train, écoutent du rap, roulent des joints comme si de rien n'était, et font complètement autre chose dans les heures qui suivent. Ça, ce sont les signes manifestes de soit la sociopathie, soit la psychopathie. Donc, je veux bien qu'il y ait un environnement culturel, mais cet environnement culturel produit en masse des pathologies mentales, ou alors ces pathologies, dans ces aires civilisationnelles, n'en sont pas. C'est-à-dire que ce qui est psychopathique ou psychopathologique chez nous ne l'est pas dans ces pays-là. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui,
c'est la norme.
On a parlé à ce micro, l'histoire du couteau, par exemple. Tuer au couteau, c'est culturel. C'est avoir un couteau sur soi. Il y a des sociétés comme ça qui se défendent au couteau. Nous, c'est pas notre façon de faire. Voilà,
oui,
c'est tout.
Et le problème, c'est pas d'avoir le couteau, c'est de s'en servir.
Poignarder quelqu'un, ça fait partie de leur mode de défense classique. Et donc, en fait, c'est régressif, en réalité. C'est comme ça. Alors, vous savez, il y a des quartiers en France populaire dans lesquels il y a des Français, enfin, ils sont entre guillemets, une classe moyenne moins, hein, pas moyenne plus, donc des gens pas très aisés, etc., mais qui sont français, qui sont d'origine française, etc., et il peut y avoir des bagarres, mais comme vous venez de le dire, il peut y avoir des bagarres parfois sévères et tout, mais ils savent se retenir pour ne pas tuer quelqu'un, enfin, ils ne vont pas jusqu'à faire des guet-apens pour tuer quelqu'un pour pas grand-chose, vous voyez. Ça arrive qu'il y ait des morts parfois, pour des choses gravissimes, il y a déjà eu des meurtres, voilà,
évidemment,
dans toutes les sociétés,
ça a toujours existé.
Mais vous prenez des jeunes dans un quartier où il y a moins, pas des quartiers HLM en grande majorité issus de l'immigration, mais un quartier classique d'une ville moyenne, il peut y avoir une bagarre entre jeunes dans un lycée, mais enfin, il n'y a pas de mort. Voilà, il n'y a pas de mort. En tout cas, les faits divers nous le montrent. On ne voit pas de mort dans des lycées de la petite bourgeoisie ou de la classe moyenne, moins, etc. On n'en voit pas.
Ou alors, très exceptionnellement.
Ça ne veut pas dire qu'ils ne se disputent pas.
Mais on en voit très exceptionnellement.
Ils ne font pas des guet-apens pour tuer un gamin de 15 ans, pour pas grand-chose en plus. Pour pas grand-chose. Il n'a pas violé leur mère, enfin, ce garçon.
Non, mais bien évidemment. Non, en plus, c'est. Alors, un médecin psychiatre que j'aime beaucoup citer, c'est Maurice Berger, qui a écrit plusieurs livres sur le sujet, parce qu'il dirige justement un centre pour adolescents délinquants et criminels à Marseille. Il a d'ailleurs rédigé un rapport pour le Sénat il y a quelques années. Gray, il a écrit un dernier livre l'année dernière qui s'appelle « Mineurs violents, état inconsistant pour une révolution pénale ». Je le cite, lui dit que de toute façon, chercher à faire ce que font les institutions, donc l'aide sociale à l'enfance, les services sociaux en général, et la magistrature, c'est-à-dire soigner par la parole et dire « attention, c'est pas bien, ne recommence pas », bien évidemment, ça ne sert à rien. Il faut une réponse pénale qui passe obligatoirement par la prison et par une loi impitoyable. Et parallèlement à ça, il le dit, hein, une violence groupale jubilatoire et cruelle, comme celle subie par Louis, est décrite dans le livre de 54 que beaucoup ont lu, hein, Sa Majesté des Mouches. Elle ne prend fin que quand un adulte arrive sur l'île pour empêcher les enfants de se massacrer sans aucun cadre. Voilà.
Mais si, alors le problème, c'est que, alors, c'est pas juste mettre des adolescents en prison, bien sûr, c'est ça, mais c'est global, c'est-à-dire que de manière générale, la prison ne fait plus peur en France. Le policier ne fait pas peur non plus, puisqu'on l'agresse. Voilà.
Et donc, on a des images tous les jours qui viennent du canal Saint-Martin à Paris qui prouvent que les policiers ne font peur à personne, voilà. En tout cas dans ces populations-là. Voilà.
Et donc, plus rien ne leur fait peur, ni la police, ni la prison, ni rien. Donc, il faut que ça fasse peur de nouveau, la police et la prison. Et donc, quand vous mettez des criminels en prison... et qui sont issus de ces quartiers et qui sont à l'isolement et qui ne voient personne, ni leur femme, ni personne, et c'est très dur, et ils ne sortent pas si facilement, ils n'ont pas de téléphone portable et tout, et ça se sait. Voilà, ça se sait et ça commence à faire peur. Quand vous attrapez, quand des gamins font des choses comme ça, des jeunes de 15-16 ans font des meurtres, des assassinats, ils organisent des assassinats prémédités comme ça, vous les mettez en prison à 16 ans, ils n'en sortent que 30 ans plus tard dans une prison dure et difficile. Et ça se sait, vous savez. Et donc là, ça commence à faire réfléchir. C'est global, mais aujourd'hui, on est dans un pays que...
C'est l'effet dissuasif des peines. Alors ça, ouais. Ça, bien évidemment, ça fait partie aussi du débat sur la peine de mort. Mais c'est l'effet dissuasif.
D'y aller pour savoir que c'est pas génial dedans. Tout se sait parce que vous savez, il suffit qu'il y en ait un dans leur quartier qui y va, et après ça se sait. On dit un tel, ça va pas bien pour lui. Donc là, ça commence. Mais là, pour le moment, un tel, il vit comme un seigneur en prison.
Quand il y va. Et quand il y va, de toute façon, il retrouve les gars de son quartier, les gars de son département, les gars de sa religion, les gars de son origine ethno-raciale, et puis ils refont des sociétés parallèles. Et c'est d'ailleurs comme ça que naissent aussi des gangs de prison. On n'en a pas encore tout à fait en France, mais on a des gangs, on l'a vu avec la fameuse DZ Mafia, la mafia algérienne de Marseille, qui continuent d'opérer, dont les caïds continuent d'opérer en prison comme si de rien n'était. Ils ont 4, 5, 6 téléphones portables dans leur cellule, c'est le Club Med.
J'étais dans un commissariat, il venait de la police venait de faire une descente dans une, je ne sais pas où d'ailleurs, mais en tout cas ils avaient mis en garde à vue, ils venaient de ramener un groupe de jeunes, très jeunes, africains, donc pour des trafics de drogue. Il les poursuivait, bon apparemment c'était, voilà. Et puis moi je patientais, puis j'écoutais, ils étaient là menottés en attendant d'être mis en garde à vue, et ils discutaient entre eux. D'abord, c'était du lourd, c'était des gros trafiquants, il y a eu une perquisition chez eux, j'ai compris parce que j'écoutais les conversations, et donc ils étaient en flagrant délit, etc., avec la drogue chez eux, vendeurs, connus, récidivistes et tout, ils n'avaient pas l'air traumatisés, hein. Ils savaient qu'ils allaient en prison, ils discutaient entre eux, ils disaient « Ouais, bah, je vais me retrouver à tel endroit pour des mois, je vais appeler l'avocat. » Enfin, pour eux, c'était une balade, une routine, quoi.
C'est une routine,
ils n'avaient pas l'air du tout traumatisés de passer quelques années en prison. Ils étaient là, ouais, bon... Je sais pas, mettez-vous un peu... Imaginez-vous, vous avez une vie libre, et puis vous venez de vous faire arrêter, vous savez que vous en avez pour quelques années. Ça vous traumatise, enfin, je sais pas, ça me traumatiserait.
Et que vous allez vous retrouver tout seul... Donc, une proie au milieu de prédateurs. Puis, ils s'en foutent. Ils sont en groupe.
Ils étaient... ça m'a épaté parce que je voyais ces jeunes, ils étaient très jeunes d'ailleurs, très, entre guillemets, permettez-moi le terme, relax. Vraiment, comme si de rien n'était. Bon, passons. C'est comme ça. Pour l'anecdote, ils n'arrêtaient pas de dire Wallah et le prophète, etc. Et je me suis rendu compte que l'un d'eux s'appelait Claude.
Oui.
Donc en fait, il n'est pas d'origine musulmane.
Oui.
Vous voyez, l'influence, c'est ce que je disais il y a quelques minutes.
Oui.
C'est un Africain qui s'appelle Claude, et sa sœur, qui avait été arrêtée dans la foulée dans cet appartement, s'appelait Iris.
Oui,
bon,
oui.
Il parlait avec elle, ne t'inquiète pas, tu n'y es pour rien dans cette affaire. Donc Iris et Claude ne jurent que par le prophète, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Mais ils baignent dans un milieu musulman. Et donc voilà, et pour eux, l'islam, c'est devenu l'anti-France, vous savez. Donc en fait, ils sont très sympathisants de l'islam, ils veulent l'adopter, alors que originairement ils ne sont pas du tout musulmans, parce que c'est par la haine de notre société.
Tout à fait. En tout cas, voilà, c'est un exemple maintenant. On a des faits divers abominables comme cela quasiment toutes les semaines, voire plusieurs
drame,
fois
c'est
par
que
semaine.
Vous savez, il n'y a pas pire que l'habitude. C'est-à-dire ça devient une routine, et ça devient c'est la normalisation des choses. C'est-à-dire qu'on est habitué maintenant à ce qu'il y ait des morts de temps en temps. Et puis on s'habitue à tout. Vous savez que c'est comme les guerres qui durent 3-4 ans, on s'y habitue après. Hein. Et donc moi j'ai vécu ça. Moi, vous avez des bombes qui tombent. Je dis, ah ouais, bon, bah, j'attends que ça passe et je sors. Ça y est, vous êtes. Et donc là, on s'habitue à ça. Donc, et quand vous vous habituez à ce genre de choses, vous ne réglez plus le problème, parce que ça vous semble faire partie des choses naturelles.
Pour terminer et conclure peut-être sur ce sujet, cet après-midi, hein, sur une chaîne d'information en continu, c'est la tante maternelle, si je ne m'abuse, de la victime, du jeune Louis, qui est venue prendre la parole assez courageusement, en rappelant d'ailleurs que aucun responsable institutionnel ne l'avait appelé, c'est-à-dire pas le ministre Laurent Nunez, ni le préfet du département.
Non, il était occupé, le préfet.
Oui.
Il était occupé à faire un arrêté interdisant la vente de l'alcool à cause de la chaleur.
Mais on va en parler.
Non, il n'a pas le temps de l'appeler, vous comprenez ?
Il n'a pas le temps de l'appeler.
Ils sont occupés à interdire.
Aucun responsable institutionnel n'a appelé donc les parents du pauvre Louis, d'une part. Et d'autre part, Nunez avait déclaré qu'il récusait complètement l'utilisation du terme d'ensauvagement. Et la tante de Louis disait cet après-midi à la télévision, mais en regardant les vidéos horribles du lynchage de mon neveu, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre comme terme que celui d'ensauvagement ? Je demande au ministre Nunez de me dire ce qu'il aimerait qu'on dise à la place.
Nérix, il va vous dire.
Ben voilà,
comme pour l'affaire de Crépol.
Et d'ailleurs, les parents ont décidé de réagir parce que l'Indépendant, journal local, utilise encore sur son site internet le terme de Rix. La Rix, la fameuse Rix avec un par terre et cinq qui lui shootent dedans.
Évidemment.
C'est bien connu. Voilà.
C'est bien connu, c'est leur tactique habituelle. Alors, comme je vous ai dit, non, le préfet, il ne faut pas s'attendre des choses du préfet, quel qu'il soit, le préfet de telle ou telle région, tel département.
Rappelons d'ailleurs qu'avant, Laurent Nunez était préfet. Hein,
oui, absolument, il était préfet.
Préfet de police.
Alors, ni du ministre de l'Intérieur, ni du préfet, parce qu'ils sont surchargés de travail. Ils réfléchissent qu'est-ce qu'il faut encore interdire. Parce que figurez-vous que vendredi, j'essaye d'acheter, pour être honnête, c'était pas moi, c'est mon épouse qui essaye d'acheter une bouteille de vin.
Grave erreur. Grave erreur.
À 7h du soir, un vendredi soir. Je vais pas donner son âge, mais elle est majeure, hein, je vous assure. Je me suis pas marié avec une mineure.
Mais elle aurait pu même montrer sa carte d'identité.
Non, justement,
pour
elle
prouver...
va acheter une bouteille de vin à l'épicerie, à la grande épicerie de la rue de Passy. D'accord ?
Donc Paris.
Paris, dans le 16e arrondissement, la grande épicerie. Voilà.
Elle rentre, erreur.
Elle choisit une bouteille de vin et la vendeuse dit « Non, mais madame, je ne peux pas vous vendre la bouteille de vin. » Elle lui arrache des mains même. Hein. Elle lui dit « Mais parce qu'il y a un arrêté préfectoral qui nous interdit de vendre de l'alcool après 18h à cause de la canicule, de la chaleur. » Ma femme, je lui ai dit « Peut-être que j'ai mal compris. » Elle m'a dit « Mais vous savez, je suis majeur. » Ça se voit d'ailleurs. Comme je vous dis, je ne me suis pas marié avec une enfant. Et donc elle lui dit « Oui, mais c'est pour tout le monde. » Et là, elle s'énerve un peu. Elle dit, vous savez, on est assez responsable. C'est pour la boire chez nous à dîner. Voilà. C'est pas pour la boire comme un clochard dans la rue sur un banc.
Vous avez dit le mot qu'il faut. C'est le mot responsable. On va y revenir.
Alors, on va faire une pause
pour le bobino et vous allez nous raconter.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine. Des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Alors, on reprend donc cette histoire d'interdiction, une de plus. Et donc, voilà, donc la pauvre vendeuse, elle n'y peut. Vous savez que s'ils dérogent à la loi, ils ont des amendes et tout, donc elle a reçu des ordres. Je suis navré, je ne peux pas vous vendre de l'alcool. Et donc, il fait chaud. Nous sommes un pays sixième, on n'arrête pas de régresser, on doit être sixième
en puissance économique. Je crois que c'est plutôt septième maintenant.
On va être 17e, vous savez. Nous ne sommes pas climatisés, nous ne sommes pas équipés. Dès qu'il fait chaud, le pays s'arrête.
Il s'arrête, c'est-à-dire qu'au bout de moins d'une semaine de canicule pénible, c'est pas le Tchad non plus, les hôpitaux de Paris et de l'Île-de-France sont saturés.
Eh bien, voilà.
Mais c'était le motif d'ailleurs de cette interdiction à Paris
comme
de la vente et de la consommation d'alcool.
Comme l'a bien rappelé Sarah Knafo dans une de ses vidéos, en 2003, lorsqu'il y a eu la canicule de 2003, on nous a décrété un jour de travail de plus gratuit.
Oui. Pour financer.
Pour financer.
Le plan rafraîchissement ou grande chaleur ou je sais
pour
plus
les
quoi.
EHPAD, etc. Voilà. Et donc, elle a chiffré tout ça. Et elle est arrivée à la conclusion qu'en un an de ce jour de travail gratuit que font les Français, en un an, on aurait pu équiper tous les EHPAD de clim, et un an de plus, tous les hôpitaux, et une troisième année, toutes les écoles primaires, et ainsi de suite. Ça fait juste 23 ans.
Ouais.
Donc en 23 ans...
Qu'est-ce qui a été fait ?
Il est où l'argent ?
Zéro.
En 23 ans, tout cet argent, le travail des Français, le jour de plus, travailler gratuitement, aurait pu équiper, d'une part, toutes ces institutions publiques où la clim est vraiment très importante, hôpitaux, EHPAD, écoles pour enfants, etc. Mais en plus, parce que ça fait 23 ans, c'est pas 3-4 ans, en plus, on aurait pu, au lieu de subventionner panneaux solaires là, pour faire plaisir aux écologistes, qui nous coûtent une fortune. Ça nous coûte une fortune. On aurait pu faire des remises sur impôts pour les climatiseurs.
Par exemple.
Pour que les gens puissent acheter des climatiseurs sans se ruiner, s'équiper sans se ruiner. Et c'est bien pour leur santé. Parce que vous savez, quand l'État fait une réduction d'impôts pour l'achat d'un climatiseur, il économise de l'argent aussi parce que ça fait moins de personnes âgées qui meurent, moins de personnes âgées qui tombent malades à cause de la chaleur, etc. etc. On n'en a rien fait, on est un pays... Oh là là, il fait chaud, on ne travaille plus, on ferme plus tôt, on parlait... Vous savez quelles solutions ils ont trouvées, quelles idées ont les partis de gauche en France ? C'est de faire rembourser... mettre les employés en chômage technique lorsqu'il fait très chaud. Donc en fait, quand il fait très chaud, on interdit l'alcool, on interdit tout, et on interdit aux gens de travailler aussi pendant qu'on y est, voilà, parce qu'il fait chaud. Vous savez, il fait très chaud en Italie.
Oui, les gens travaillent.
Oui, les gens travaillent. Il y a deux tiers de l'Italie qui est climatisée, nous, on n'est même pas à 20%.
Ouais.
L'Italie, les Italiens desquels on se moque tout le temps, ces pauvres Italiens, ils ont dépassé sur tous les plans. L'Espagne, c'est pareil, la Grèce, c'est pareil. Enfin, tous ces pays sont climatisés.
Alors là,
j'irai même plus loin, Pierre-Henri.
Ouais, ouais.
Le Liban, que je connais bien, qui est un pays... Pardon, excusez-moi, mais dans lequel il n'y a pas d'État, c'est n'importe quoi.
Ouais, un peu anarchique, on va dire.
Un peu anarchique, crise financière incroyable, les comptes bloqués en banque, j'en passe, et des meilleurs. Et l'électricité n'est même pas assurée à tout le monde, elle est coupée tout le temps. Il fonctionne avec des générateurs électriques.
Ouais.
Vous allez au Liban et partout il y a la clim.
Ouais.
Partout, vous allez. Donc même, il n'y a que nous, nous sommes sans clim. Mais moi, je rencontre des étrangers qui me disent... Mais il n'y a pas la climatisation chez vous l'été ? Je dis, non, pourquoi ? Comment ça, pourquoi ? Il fait chaud. Les restaurants, il y a plein de restaurants dans Paris, il fait très chaud, les gens n'y vont plus.
Oui.
Donc c'est du chiffre d'affaires en moins, mais c'est une perte pour l'État aussi. Hein.
C'est
des impôts
mais en fait,
moins.
C'est une perte pour tout le monde. Et alors ça, c'est en fait, on est devant un État qui, toute tendance politique confondue, parce que là on parle de la grande canicule de 2003, c'était à l'époque de Chirac, hein. Donc la soi-disant droite. Donc on est devant une classe politique qui dirige l'État comme un chef d'entreprise qui mettrait en faillite sa boîte. Donc théoriquement, en fait, il peut aller jusqu'à la condamnation, le chef d'entreprise. Oui. Et nous, on n'est pas encore mis sous tutelle. C'est arrivé à des pays comme l'Argentine et la Grèce. Mais ça serait peut-être mieux, en fait.
Oui.
Parce que ce que vous nous expliquez, c'est un gouffre financier incroyable et c'est une ruine progressive de la France. D'une part.
On est surendetté, mais ils dépensent de l'argent pour des choses totalement inutiles.
Oui.
Et puis, vous savez ce qu'il. Pardon de vous couper, mais. On se demande, je ne vais pas faire le complotiste, hein, une fois de plus, mais enfin. Ce n'est pas une interprétation, une supposition. Il y a un ministre, je ne sais plus lequel, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y en a un qui a fait une déclaration dans laquelle il dit « Eh bien, voyez, l'aide à mourir, c'est utile. »
Oui, mais tout à fait.
À propos de la canicule.
Oui, mais
autrement,
tout à fait.
Ce sont des nazis, ces gens.
Oui.
Ce sont des nazis. Il est en train de nous dire, eh ben, il fait chaud. Vous voyez, ben, finalement, il fallait bien que les gens se suicident
parce
qu'il fait chaud.
Je vous rappelle que Gabriel Attal, au moment du confinement du Covid en 2020, avait déploré publiquement, je crois que c'était à l'Assemblée nationale, que le nombre d'avortements était en baisse. Et il trouvait que c'était absolument scandaleux et qu'il fallait inverser la tendance.
Oui.
Ces gens sont agités par Satan.
Pour dire les choses clairement, ils sont en train de dire, au lieu de mettre la clim, ça coûte cher, eh ben, les gens âgés n'ont qu'à se...
Donc s'ils ont trop chaud,
piquer pour mourir, comme ça, ça coûtera moins cher.
On va venir les euthanasier, et ça fera comme dans le film de science-fiction Soleil Vert, et on en fera du compost.
Pas de clim, mourrez, comme ça vous ne me coûterait moins cher. C'est ça le truc.
Mais c'est exactement ça. C'est vraiment l'instinct de mort, la pulsion de mort, la culture de mort, comme disait oui. Jean-Paul II, qui est à la manœuvre.
Il l'avoue avec un culot incroyable. Alors juste, il nous reste interdit. Depuis le Covid, on interdit tout. Ils nous ont testés, on n'a rien dit, on s'est enfermé chez nous. Et depuis, ils interdisent. Alors, chaque fois qu'il y a un problème, au lieu de le régler, ils nous interdisent de faire quoi que ce soit. Il y a un match de football, enfermez-vous chez vous, interdiction de sortir. Il y a une maladie, un virus qui circule, enfermez-vous chez vous parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux. Parce que c'est ça, hein, c'était ça, le Covid, il n'y a pas d'hôpitaux. Alors, voilà, bref. Donc, interdit, c'est l'Union soviétique.
On
c'est...
aura l'occasion d'en reparler. Malheureusement, c'est un problème qui ne se règle pas.
Bientôt,
et
on va avoir
s'aggrave.
Un passeport. On en a eu d'ailleurs des passeports pour circuler.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Culture et Politique. Merci,
à
chers
bientôt,
amis.
Merci.